Radio Kapi.
Le journal, présenté par Belinda Bosuma.
Lutte contre Ebola. Près de 500 personnes déjà vaccinées à Boulapé, dans le territoire de Mueka. Nous sommes dans la province du Kasaï. Ici, l'OMS signale 48 cas recensés, dont 31 décès. La campagne est en cours depuis dimanche dernier. Et en priorité, les personnes ayant été en contact avec des malades et le personnel soignant. La première ministre séjourne depuis hier à Moba, dans le Tanganyika. Sur place, Judith Suminwa a visité le port de Moba et promet sa modernisation. À Kalemie, la chef du gouvernement congolais a lancé les travaux de réhabilitation de quelques projets d'infrastructure. Et puis, cela fait 5 ans que les journalistes et autres professionnels des médias travaillent sans carte de presse en RDC, une situation qui handicape le travail des chevaliers de la plume. Pour en parler, nous recevons Charles Dimanja Wembi, président de la commission carte au sein de l'Union nationale de la presse congolaise. À tous et à toutes, bonjour. Près de 500 personnes ont déjà été vaccinées contre le virus Ebola à Boulapé, dans le territoire de Mueka, province du Kasaï. C'est depuis le lancement de la campagne de vaccination dimanche dernier. C'est ce qu'a fait savoir hier jeudi l'Organisation mondiale de la santé. Selon l'OMS, les doses de vaccins sont administrées en priorité aux personnes ayant été en contact avec des malades ainsi qu'au personnel soignant. Écoutez à ce sujet le docteur Sheila Nsasi Roué, responsable des urgences sanitaires pour l'immunisation au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, propos recueillis par Stanislas Diumi.
Le pays a également reçu 2000 doses supplémentaires auprès du groupe international de coordination de la vaccination et cela a permis de s'assurer que la vaccination de la population à risque s'est assurée rapidement afin d'éviter la propagation. La vaccination a été lancée le 13 septembre à Boulapé, où la plupart des cas ont été notifiés. Les approches vaccinales utilisées sont connues. Nous ciblons particulièrement les contacts des personnes ou les contacts probables ou des personnes qui pourraient entrer en contact avec les personnes infectées. Et nous travaillons également particulièrement avec les travailleurs de première ligne et le personnel de santé. Hier, près de 284 prestataires de soins de santé ont été vaccinés à Boulapé et à Maïka et 307 contacts et contacts probables à Boulamba et à Boulapé ont été vaccinés. En tout, près de 491 personnes ont été vaccinées. Nous avons 45 000 doses supplémentaires attendues et ces doses devront arriver au cours des 2 voire 3 prochains jours.
Notez que la flambée des fièvres hémorragiques Ebola a jusqu'ici touché 14 localités dans la zone de santé de Boulapé sans qu'aucun cas ne soit signalé dans les autres zones de santé de la province du Kasaï. Au total, 48 cas ont été recensés avec 31 décès enregistrés selon l'OMS. Entre-temps, 6 centres hospitaliers à travers le pays vont recevoir des incinérateurs industriels pour la destruction des déchets médicaux dangereux. Le premier de ces équipements offerts par l'UNICEF a été remis officiellement hier jeudi à Kinshasa. Reportage de Lukin Zaou et Gloriane.
La cérémonie de remise officielle s'est tenue à la clinique Ngalema de Kinshasa. Cet incinérateur moderne, capable d'atteindre une température de 1000 degrés Celsius, peut brûler jusqu'à 300 kg de déchets par jour. Il remplace les anciens brûleurs en briques dont la capacité de chauffage était limitée à 110 degrés Celsius. Pour Jean-Jacques Diabanga, chef de division hygiène et salubrité publique du ministère de la Santé, ce nouvel incinérateur fonctionnant à l'essence et à l'électricité contribuera à mieux protéger l'environnement.
Les déchets biomédicaux sont dangereux, nécessitent une élimination. Un thermomètre à mercure, lorsque c'est cassé, on met où ? C'est dans l'environnement. Donc vraiment, nous étions en train d'exposer nos communautés.
Présent à la cérémonie, le docteur Edouard Bolamba, médecin chef des zones de santé d'Ndjili, a insisté sur l'importance d'un bon usage de ces équipements. Si les hôpitaux de Kinshasa sont les premiers à bénéficier de ces incinérateurs, la direction hygiène et salubrité publique du ministère de la Santé annonce que d'autres centres hospitaliers à travers vers les pays seront également équipés dans les mois à venir. Il s'agit de l'IME Kimpese au Congo central, les laboratoires provinciaux de la santé publique de Lubumbashi, l'hôpital Mwangeji de Lualaba et l'hôpital de Makiso dans la Tchopo.
Voilà, c'était là le reportage de Lukin Zaou et Gloriane Lepea. Dans l'actualité aussi, je vous l'ai dit dans les titres, la première ministre est arrivée hier jeudi dans le territoire de Moba, dans la province du Tanganyika. Sur place, elle exhorte la population à l'unité et à la vigilance. Judith Suminwa a visité le port de Moba et promet sa modernisation. À Kalemi, la chef du gouvernement congolais a lancé les travaux de réhabilitation de quelques projets d'infrastructures. Le point avec Paulin Munanga.
Dans son adresse à la population à Mobaport, Judith Suminwa appelle la population à faire preuve de patriotisme en collaborant avec les forces de sécurité et en dénonçant tout comportement suspect. Elle lance un appel à l'unité. Le message que je vous apporte, c'est le message de l'unité. Le territoire de Moba se trouve dans la province du Tanganyika et le Tanganyika se trouve en RDC. Nous tous, nous devons vivre dans l'unité. Nous ne pouvons pas nous battre entre nous. Si nous continuons à nous battre, l'argent pour régler les problèmes de la population sera affecté à la guerre. La première ministre a visité l'état actuel du port de Moba afin de lancer les travaux de réhabilitation de ce port dans les jours à venir. Ce port qui est quasi inexistant et de surcroît inaccessible. Les quais sont submergés par les eaux et les bateaux ne peuvent pas accoster. Dans la ville de Kalemi, Judith Suminwa a lancé les travaux de réhabilitation de quelques infrastructures. C'est notamment le boulevard Lumumba qui est régulièrement inondé par les eaux de la rivière Lukuga et du lac Tanganyika. Elle a visité les ports publics de Kalemi et a annoncé le début prochain des travaux de modernisation de ces ports internationaux. Signalons que depuis plusieurs années, certaines autorités en visite dans le Tanganyika ont promis la réhabilitation du port de Kalemi et de Moba. Mais ces promesses sont restées lettres mortes. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Autre nouvelle, le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, dénonce des actes de corruption impliquant certains avocats censés représenter les intérêts de la République. Il s'engage à combattre ce système qui, d'après lui, fait perdre des millions de dollars des deniers publics. Le garde des Sceaux a fait cette déclaration mercredi lors d'un briefing de presse à Kinshasa, co-animé avec le ministre de la Communication et Médias. Écoutons le ministre Guillaume Ngefa de la Justice dans ses propos recueillis par Blaise Shindani Kambala.
Je dis clairement que je vais lutter contre la corruption. Quand je suis arrivé, j'ai pris fonction, j'ai trouvé que les avocats de la République, c'était un secteur où il y avait beaucoup de cas de corruption. Donc on va mettre de l'ordre, on va choisir des avocats qui vont représenter la République, qui ne vont pas être de connivence avec les partis adverses pour faire condamner la République à payer des millions. Ça, pour moi, ça c'est très clair. C'est très clair. Et d'ailleurs, je peux vous dire, je refusais de signer le document pour payer certains avocats dont je ne voyais même pas, il n'y avait pas de rapport de l'audience et je ne voyais pas pourquoi on doit le payer. Donc on va faire certainement une évaluation. Parce que si nous voulons aider le président de la République, nous voulons effectivement lutter contre la corruption, il faut que nous puissions avoir des règles de transparence. Ça, c'est clair pour moi. S'agissant des paiements, ça a été fait avant moi, mais je n'ai pas vraiment l'information sur cette question puisque les avocats ont été désignés avant, mais je vais essayer de le voir.
Dans l'actualité aussi, l'ASBEL Justice et Paix Congo de la CENCO organise des débats scientifiques sur la paix, la démocratie et le bien vivre ensemble. Après avoir lancé les journées nationales Justice et Paix 2025, mercredi et hier jeudi, elle s'est penchée avec plusieurs panélistes sur les enjeux de la paix en République démocratique du Congo. Jeff Ngoy pour le reportage.
La première session des panels sur la paix en RDC est axée sur la prière avec Mgr José Moko, évêque d'Idiofa. Il invite l'assemblée constituée de scientifiques, évêques et laïcs à enraciner une paix profonde et universelle, à tirer les leçons des initiatives passées et en cours. Secrétaire exécutif de Justice et Paix Congo, Cyril Ebokoto, contextualise la création et la mission de son organisation consistant à accompagner les efforts de paix, bannir les antivaleurs, éveiller les consciences et proposer les alternatives crédible. À son tour, Mgr Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, fait de ses assises un prolongement des engagements des églises catholiques et protestantes. Il met en exergue la responsabilité des confessions religieuses à toujours maintenir l'élan du dialogue en dépit des échecs passés. Aussi dénonce-t-il les attaques d'une communauté de prêtres à Bounia. Mgr Félicien Moinama, président de JPC, rappelle la vision, l'histoire et les valeurs qui guident cette dynamique en quête du vivre ensemble, pilier fondamental d'une paix durable.
Les pays d'Afrique centrale appelés à l'unité pour mettre à profit des opportunités de développement en partenariat notamment avec la Chine, appel lancé par François Mwamba, coordonnateur du Conseil présidentiel de veille stratégique. C'était au cours du colloque international Chine-Afrique centrale que cette structure a organisé hier jeudi à Kinshasa. Le thème, la voie à suivre pour concrétiser en Afrique centrale les acquis du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC 2024. Objectif, engager des échanges et réflexions approfondies pour traduire les partenariats et orientations stratégiques issues du FOCAC 2024 en actions concrètes structurées de nature à consolider les acquis du forum. On écoute à ce sujet François Mwamba Tshishimbi dans ses propos recueillis par Grace Amzati.
La coopération Chine-Afrique centrale appelle à la promotion d'une coopération de haute qualité afin de tirer le maximum des accords sur les partenariats économiques de développement commun. À mes frères d'Afrique centrale ici présents, je dis que nos nations ont une communauté de destin qui ne peut être fructifiée que dans l'unité et la coopération mutuellement profitable. Soyez assurés que, sous le leadership du président et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, la République démocratique du Congo est parfaitement alignée sur cet impératif, par ailleurs gage de cet incontournable préalable au développement qu'est la paix. Ainsi, face à l'offre de la Chine et de son président Xi Jinping, avons-nous l'obligation d'organiser davantage une véritable armée de chercheurs et scientifiques dans notre espace, afin de capitaliser le rapprochement entre la Chine et l'Afrique centrale pour élever les défis du développement et créer une plateforme de maximisation d'opportunités de coopération bi- et multilatérale.
Pour sa part, l'ambassadeur de Chine en RDC, Zhao Bin, a réitéré l'engagement de son pays à accompagner les pays d'Afrique centrale, notamment dans le domaine d'infrastructures. Ce rendez-vous scientifique a été organisé en collaboration avec le bureau du conseiller spécial en charge des ressources extérieures et du suivi des projets, avec le soutien de l'ambassade de Chine en RDC. Il s'est clôturé par la signature des contrats entre la Chine et les pays d'Afrique centrale dans divers domaines de développement. La question de la production d'électricité en RDC, au cœur des échanges mercredi à Kinshasa entre le ministre des Finances Doudou Fouamba et l'ambassadeur de France en RDC, Rémi Maréchaux. La France, à travers l'Agence française de développement, s'engage à accompagner la RDC dans ses défis de développement, notamment dans le secteur énergétique, en réhabilitant le barrage de la Tchopo. Grâce à Mzati, reportage.
Au cours de cette rencontre, le ministre Doudou Fouamba a exprimé les attentes des populations et des élus des provinces confrontées à une pénurie d'électricité persistante. Il insiste sur l'urgence de trouver des solutions durables et rapides. De son côté, l'ambassadeur Rémi Maréchaux souligne la détermination de l'AFD à répondre à cet impératif en adaptant le projet initial de réhabilitation du barrage de la Tchopo sur lequel l'agence travaille depuis juillet 2023. Un autre point abordé porte sur le projet du barrage de Rusizi 3. Il s'inscrit en effet dans une démarche de soutien aux efforts diplomatiques des États-Unis pour la restauration de la paix dans l'Est de la RDC, affirme le ministère des Finances. La France, par les biais de ses projets, vise à promouvoir l'intégration économique régionale et à garantir que les populations et les pays riverains bénéficient concrètement et rapidement des retombées de la paix retrouvée, déclare l'ambassadeur. Ce dernier a profité de cette occasion pour présenter le nouveau directeur de l'Agence française de développement AFD en RDC, Hervé Conan.
Par ailleurs, l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain ANSER a lancé mercredi un appel à projets dans le cadre du fonds Mwinda. La cérémonie s'est tenue au fleuve Congo Hôtel à Kinshasa en présence des nombreuses autorités politiques dont le ministre des Ressources hydrauliques. Détail avec Blaise Ndongala Maenda.
Cet appel à projet s'adresse principalement aux opérateurs privés invités à soumettre leurs propositions afin de contribuer à l'atteinte des objectifs d'électrification de la RDC à 100% à l'horizon 2045 avec le soutien d'autres initiatives. Comme l'a souligné le directeur général de l'ANSER, le fonds Mwinda, financé par l'État congolais et appuyé par la Banque mondiale, vise à stimuler et accompagner l'investissement privé dans les secteurs de l'énergie.
Cette politique se fonde sur des objectifs clairs et ambitieux, élever le taux d'électrification à 50% d'ici 2030, diversifier nos sources de production d'énergie, développer une électrification hors réseau et enfin promouvoir la transition énergétique et réduire notre dépendance critique au bois énergie.
Pour concrétiser ces ambitions, l'ANSER met en œuvre plusieurs mesures incitatives, notamment la libéralisation du secteur au profit des opérateurs privés, la garantie d'un cadre légal stable et la facilitation du déploiement des mini-réseaux en zone rurale. De son côté, le ministre des Ressources hydrauliques exhorte les opérateurs privés à répondre avec ambition et enthousiasme à cet appel à projet. Il rappelle par ailleurs que le fonds Mouinda constitue, je cite, un instrument de crédibilité pour harmoniser les programmes régionaux et mondiaux.
Actualité internationale.
Des dizaines de militants des droits des femmes se sont rassemblés près de l'ambassade des États-Unis à Bruxelles hier jeudi. Ils protestaient contre les plans possibles de l'administration Trump de détruire des millions de dollars de fournitures de planification familiale destinées aux femmes vivant dans des conditions difficiles en Afrique. Les stocks de contraceptifs coûtent plus de 9 millions de dollars et sont financés par les contribuables américains. Ils sont destinés aux femmes vivant dans des zones de guerre ou des camps de réfugiés, selon les sénateurs américains. Les produits sont stockés dans un entrepôt en Belgique. Selon les défenseurs des plannings familiaux des deux côtés de l'Atlantique, la destruction de ces produits pourrait entraîner 362 000 grossesses non désirées et la mort de plus de 700 femmes à la suite d'un accouchement ou d'une grossesse.
L'invité.
Il s'agit de Charles Dimanja Wembi, président de la commission de la carte au sein de l'UNPC. Cela fait 5 ans maintenant que les journalistes et autres professionnels des médias en RDC travaillent sans carte de presse. Nous en parlons avec Charles Dimanja Wembi. Il répond aux questions de Freddy Bikumbi.
Charles Dimanja Wembi, bonjour.
Bonjour.
Qu'en est-il de ce processus? Ça fait 5 ans que les journalistes travaillent au Congo sans avoir la carte des presses.
On savait que l'anarchie continue toujours. On savait que le journalisme, c'est un monde à part. Nous sommes le seul pays au monde où on devient journaliste quand on veut. Alors c'est difficile, en ce moment-là, de remettre de l'ordre. Et comme la seule institution habilitée à délivrer la carte, c'était l'Union nationale de la presse du Congo, l'UNPC, alors nous sommes en train de nous atteler à remettre d'abord de l'ordre. Là, nous avons mis en place un formulaire que nous allons bientôt mettre en circulation, qui sert à la fois d'identification et de recensement des journalistes.
En fait, il y a ce que vous avez soulevé comme du désordre au sein de la Corporation des journalistes en RDC. À Kinshasa, par exemple, la section INPC a recensé de sa part les journalistes et délivré une sorte de carte de presse, hein, entre parenthèses provisoires. À Beni, il y a aussi une section de l'INPC qui a recensé les journalistes, demandé 10 dollars et qu'on a délivré une carte, je l'ai avec moi, une carte de presse provisoire. Tout ça, est-ce l'image de la profession n'est pas ternie?
Toutes ces initiatives-là sont tout à fait privées, ça n'a rien d'officiel, parce qu'il y a une organisation officiellement reconnue pour octroyer l'identité des journalistes aux personnes qui voudraient exercer cette profession. Ce qui se fait à Kinshasa, à Beni, à Goma, c'est tout simplement de l'anarchie. Même si c'est le mouvement rebelle qui vous demande, qui délivre, mais ces cartes n'ont aucune validité légale et officielle. Parce que dès lors, quand nous allons lancer l'opération, vous n'avez pas la carte délivrée par l'Union nationale de la presse du... Vous ne serez pas considéré comme journaliste. Vous exercerez la profession en ce moment-là par effraction. Et vous êtes passible de causer tribunaux.
Et que comprendre maintenant pour ceux qui avaient payé en l'an 2020, 2021, ils ont payé 45 dollars à l'UNPC national et que jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont toujours pas eu la carte de presse. Que dire de ce processus? Ça va encore prendre combien de temps?
Moi, nous, quand nous sommes arrivés à l'UNPC, et principalement, moi, j'ai écrit au secrétariat général de l'UNPC de me donner les archives pour voir ce qui a été fait avant. Mais vous savez que jusque-là, il n'y a pas d'archives. Ça, c'est l'illustration du désordre qui a élu domicile dans la profession. Les gens qui payaient de l'argent, ils ne payaient pas des structures officielles, ils payaient des individus.
Est-ce vraiment la carte de presse sera un jour délivrée ici au Congo?
On a trouvé énormément de problèmes à l'Union. Il faut surmonter ce problème-là, il faut avoir la foi. Vous voulez exercer cette profession, il faut être en règle. Il faut payer la cotisation.
La cotisation annuelle, c'est à combien? Et la carte, c'est à combien?
Nous sommes en discussion avec le bureau exécutif de l'UNPC pour fixer les modalités, pour fixer les prix de la carte et les montants à payer pour la cotisation.
Monsieur le Président de la Commission, donc vous refusez, vous rejetez les cartes provisoires des presses délivrées à Kinshasa, à Beni et aux autres qui sont à Goma.
Soyons corrects vis-à-vis de la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Je sais que la nature a horreur de vide et les gens ont profité de ces vides-là pour faire ce qu'ils font. Ce n'est pas légal parce qu'ils devront reprendre avec le processus d'identification.
Monsieur Dimanja Wembi, merci.
Charles Dimanja Wembi, président de la commission carte au sein de l'UNPC, répondait aux questions de Freddy Bikumbi. Par ici prend fin ce journal mis en onde par Dieudonné Nyangassa. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix.